Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'inquiétude des autorités sanitaires aux États-Unis face à la Covid-19. À rebours de Donald Trump, elles estiment que la situation est désormais hors de contrôle. 40 000 nouveaux cas détectés par jour, bientôt 100 000 si rien n'est fait, vous l'entendrez.
Et si l'Union européenne rouvre ses frontières aujourd'hui, elle les maintient fermées aux voyageurs venus des États-Unis.
La crise sanitaire qui continue de frapper l'aéronautique, 15 000 suppressions de postes chez Airbus, plus de 7 500 chez Air France. La crise sanitaire et sa gestion, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est défendue hier pendant plus de 4 heures à l'Assemblée nationale d'avoir manqué d'anticipation et de réactivité. Ont-ils déconfiné trop tôt? Devraient-ils recommander davantage le port du masque? Les États-Unis, en tout cas, ont enregistré hier près de 1200 morts dus à la Covid-19. Le bilan journalier n'avait pas dépassé la barre des 1000 décès depuis début juin et le Texas concentre à lui seul un nouveau cas sur 6. Les autorités sanitaires parlent désormais d'une situation hors de contrôle. Hier, au Congrès américain, les sénateurs ont auditionné les 4 médecins responsables de la santé publique aux États-Unis et ils sont clairement pessimiste Grégory Phillips.
C'est la sénatrice Elizabeth Warren, en visioconférence depuis son bureau, qui pose la bonne question au docteur Anthony Fauci, le patron de l'Institut américain des maladies infectieuses. À combien de morts et de contaminations l'Amérique doit-elle encore s'attendre avant que tout ceci soit terminé? Le docteur Fauci, qui a conseillé tous les présidents américains depuis Reagan, répond qu'il ne peut pas donner de projection trop précise. Mais je vous garantis que ça va être très problématique. En ce moment, nous avons 40 000 nouveaux cas par jour. Je ne serais pas très surpris qu'on monte à 100 000 cas quotidiens si on ne parvient pas à renverser la tendance. Donc oui, je suis très préoccupé. Le pays compte déjà plus de 127 000 morts du Covid-19, 2 600 000 personnes contaminées et le nombre de cas continue à augmenter dans une trentaine d'États désormais. C'est particulièrement vrai en Floride, en Arizona et au Texas. Clairement, nous ne contrôlons pas ce qui se passe en ce moment, conclut Fauci, qui avec ses 3 collègues médecins et face aux sénateurs démocrates et républicains, appelle les Américains à porter des masques et à respecter plus que jamais les règles de distanciation sociale.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Et lui suit les recommandations des médecins pour lui et pour son pays. Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, âgé de 77 ans, a dit renoncer hier à organiser des meetings en vue de la présidentielle de novembre prochain, contrairement au président républicain Donald Trump. Les États-Unis, qui ne figurent pas donc sur la liste des 15 pays auxquels l'Union européenne rouvre ses frontières à partir d'aujourd'hui, et à l'intérieur des 27, le Portugal rouvre ses frontières lui à son voisin espagnol. Lisbonne espère ainsi relancer le secteur touristique, l'un des piliers de l'économie au Portugal, paralysé par la crise de la Covid-19 et grippé par de nouvelles restrictions prises ces derniers jours autour de Lisbonne, après l'apparition de plusieurs foyers de coronavirus. Le reportage de notre envoyé spécial Omar Waman.
Sur le port de la ville de Setúbal, à 40 minutes au sud de Lisbonne, il n'y a pas grand monde devant le quai du ferry qui assure la traversée vers la presqu'île de Comporta.
Normalement, à cette époque de l'année, il y a plein de monde ici. C'est plein de touristes qui vont à la plage.
Brigitte, une jeune Allemande, est la seule touriste étrangère à monter sur le bateau qui se dirige vers les plages situées sur l'autre rive à une vingtaine de minutes. Le paysage est à couper le souffle.
Nous sommes dans un paradis. Le sable est blanc, la mer est bleue comme le ciel et tous les jours, des dauphins viennent nous rendre visite.
Patricia est la gérante de la principale plage de Comporta où la capacité est plafonnée, les règles de distanciation sociale respectées, mais les touristes internationaux font défaut.
Bien sûr que nous sommes inquiets. Tout le monde a peur. On verra bien ce qui va se passer.
Sauver la saison touristique, c'est l'objectif de Luis Arrojo, le président de l'organisme public Turismo de Portugal, fier de ses 18 millions d'étrangers qui visitent le pays chaque année.
Si nous ne parvenons pas à faire revenir le même nombre de touristes, nous allons avoir de sérieux problèmes sur le plan économique. Il faut bien comprendre que 10% de la main-d'œuvre au Portugal dépend du tourisme. C'est près de 400 000 personnes.
Une manne touristique qui a permis de redresser l'économie du Portugal avant la crise du coronavirus.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu avec la crise économique qui frappe de plein fouet le secteur aéronautique. Airbus supprime 5000 postes en France.
15 000 au total dans le monde, 16 000 pour Boeing, jusqu'à 30 000 chez le géant Emirates. Airbus dit exclure des licenciements secs afin de redimensionner son activité dans l'aviation commerciale face à la crise. Près de 5 100 postes seront donc supprimés en Allemagne, 5 000 en France, 1 700 au Royaume-Uni, 900 en Espagne et 1 300 sur les autres sites du groupe dans le monde. Des chiffres jugés excessifs par Bercy, on y revient dans le journal de 8h. Le groupe Air France va de son côté supprimer plus de 7 500 postes d'ici la fin 2022 dans le cadre de sa nouvelle stratégie. Près de 6 500 seront supprimés au sein de la compagnie tricolore et plus de 1 000 au sein de la compagnie régionale Hop qui en compte 2 400. Sa base de personnel navigant de Toulouse est menacée, tout comme ses sites de maintenance à Lille et à Morlaix. Le site finistérien qui emploie 280 salariés pourrait donc fermer. Et le nouveau maire de Morlaix, Jean-Paul Vermeau, demande à être reçu à Matignon avec le président de la région et la présidente du conseil départemental du Finistère.
C'est une question bretonne et de l'aménagement de la Bretagne. Moi, je le dis très clairement, j'en appelle aussi aux grands élus bretons. Ils ont su sauver Doubs en leur temps. Ils ont su sauver également la fonderie de Caudan. C'est le Front Uni des collectivités et des élus bretons qui doit se mobiliser pour que Hop à Morlaix ne ferme pas dans les 2 ans qui viennent, mais au contraire se stabilise à long terme. Il y a une partie des activités qui devraient être déménagées à Nantes. Je le dis clairement, Nantes n'a peut-être pas besoin de ces activités pour entretenir son dynamisme économique. Donc l'aménagement de l'État, si la puissance publique a encore son mot à dire dans l'organisation territoriale, Hop doit rester à Morlaix.
Le nouveau maire de Morlaix, Jean-Paul Vermeau, issu de l'Union de Gauche, au micro France Bleu Brésisel, d'Anaïg Haute. Sur la crise sanitaire et sa gestion, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est défendue pendant plus de 4 heures hier à l'Assemblée nationale, devant les 32 députés de la commission d'enquête parlementaire sur la crise de la Covid. Agnès Buzyn, attaquée notamment sur la gestion des masques qui ont fait cruellement défaut au plus fort de la pandémie, Tara Schlegel.
Interrogée sans relâche sur cette question des masques, Agnès Buzyn explique d'abord qu'elle n'a jamais eu connaissance du courrier du 26 septembre 2018 signé Santé publique France. Courrier qui pointait pourtant à quel point les stocks de l'État étaient dans une situation alarmante. 95% des médicaments antiviraux étaient périmés. 60% des masques ne répondaient plus aux normes. François Bourdillon, le patron de Santé publique France, en appelait au ministère à propos de ces fournitures, qui englobaient d'ailleurs aussi des pastilles d'iode en cas d'accident nucléaire ou bien des tenues pour affronter le virus Ebola. Il fallait, souligne la ministre, être attentif à tous ces risques. Ce n'est que rétrospectivement, maintenant, que les masques apparaissent comme plus importants. En tout cas, sur Madame Buzyn, à la commission, elle n'a jamais vu ce courrier de 2018. Jamais elle n'a été alertée par son DGS, son directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Ça ne l'empêche pas de le défendre avec acharnement. Elle explique qu'il était dans son périmètre de décider alors de commander de nouveaux masques sans en référer à elle, la ministre. Ce qu'il fera le 30 octobre. Elle ne se prive pas, en revanche, de souligner en creux la responsabilité de Santé publique France. L'agence avait été sollicitée en 2017 pour faire son inventaire. Elle a mis 18 mois avant de fournir sa réponse, ô combien inquiétante, et elle n'a jamais directement saisi la ministre.
Nous sommes le 1er juillet. Aujourd'hui, le gouvernement israélien devait lancer le processus d'annexion de 30% de la Cisjordanie occupée depuis 1967. C'était une promesse électorale du Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'une des clauses du plan Trump dévoilé en janvier dernier, désirée par la droite religieuse et nationaliste en Israël. Mais c'est aussi une démarche unilatérale contraire au droit international et critiquée par les Palestiniens, les Nations Unies, la Russie, la Chine, par plusieurs pays arabes et plusieurs pays européens. Pourtant, malgré des mois de débats et de consultations, Benjamin Netanyahou n'a toujours pas dévoilé son plan d'annexion. Il n'est même pas sûr qu'il le fera aujourd'hui. Quoi qu'il se passe, la décision a du mal à venir. Les explications de notre correspondant à Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Annexer d'abord les grands blocs de colonies en banlieue de Jérusalem, ou bien les colonies plus éloignées, au cœur de la Cisjordanie, ou bien encore la vallée du Jourdain, et selon quel calendrier ? Israël attend toujours le feu vert américain, explique Seth Franzman, spécialiste diplomatie au Jérusalem Post.
L'administration américaine est censée être la plus pro-israélienne de l'histoire. Le problème, c'est que Donald Trump se fiche de la politique étrangère. Le message de Trump à Israël, c'est « faites comme vous voulez, mais si vous vous fourrez dans un conflit majeur, ne comptez pas sur nous pour venir vous aider ».
Les responsables sécuritaires israéliens s'inquiètent de soulèvements palestiniens difficiles à contrôler, quand les colons les plus durs trouvent le plan Trump encore trop laxiste puisqu'il envisage la création d'un État palestinien. Mais pour Inès Abdelrazek de l'Institut palestinien de diplomatie publique à Ramallah, il ne faut pas se focaliser sur l'annexion.
Il ne faut vraiment pas voir cette date du 1er juillet comme une espèce de date butoir, il y aurait un avant, un après, pas du tout. L'annexion déjurée, donc c'est l'annexion en droit, qui formaliserait une annexion de facto, n'est qu'une continuité de la colonisation. Netanyahou lui-même n'ayant pas intérêt diplomatiquement à faire ça de manière brutale, et je pense qu'il va essayer de gagner du temps.
Pour ajouter à la complexité, le vice-premier ministre israélien chargé de la défense, Benny Gantz, estime qu'il faut d'abord s'occuper du coronavirus et rien d'autre. Il n'a pas voix au chapitre, lui répond Netanyahou. L'annexion est aussi une affaire de politique intérieure israélienne.
L'annexion, continuité de la colonisation, c'est un entretien d'Inès avec Inès Abdelrazek que vous venez d'entendre, à retrouver sur francecultures.fr. Le temps de ce mercredi 1er juillet, pluvieux sur la plupart des régions de l'Hexagone. Les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 19 degrés de la Bretagne à 32 degrés dans le sud-est. Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu, 7h11 sur France Culture.